Habemus Papam.
Image même de la papauté de la Renaissance, Jules II évoque les fastes, les excès, les manœuvres politiques et militaires. Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université François Rabelais de Tours, nous compte comment Giuliano della Rovere a fait son chemin dans les hiérarchies de l'Église.
Jules II était issu d'une famille assez humble. On raconte même que dans sa jeunesse, il aurait exercé ce métier assez humble de batelier transportant des oignons. Mais il avait une chance, c'est qu'il avait un oncle qui, lui aussi, était issu d'une famille assez pauvre, mais qui avait très vite grimpé dans la hiérarchie ecclésiastique puisqu'il était devenu pape. C'était le pape Sixte IV. Alors, Sixte IV s'appelait Francesco della Rovere, ce qui veut dire du chêne. Rovere, c'est le chêne en italien. Et son neveu, donc, c'était le fils de son frère, celui qui nous concerne, s'appelait Giuliano della Rovere. Il a fait des études théologiques, il a été franciscain, mais évidemment, le fait d'avoir un oncle pape a fait que très vite, Jules II est monté dans la hiérarchie ecclésiastique lui aussi.
Il monte dans la hiérarchie de l'Église, mais se heurte à la famille Borgia, notamment au pape Alexandre VI et à son fils César Borgia, prêt à tout pour empêcher l'arrivée sur le trône de pierre d'un nouveau della Rovere.
Il y a eu quand même un pape intermédiaire entre Alexandre VI et Jules II, ça a été le pape Pie III, mais il est resté au pouvoir que moins d'un mois. Et donc au conclave qui a suivi, César Borgia, qui lui aussi était malade, n'a pas pu manipuler le conclave pour empêcher justement Jules II d'être élu. Jules II, de façon très habile, a très très bien, négocié avec les partisans potentiels des Borgia, et finalement c'est fait élire.
C'est ainsi qu'est élu un pape au profil militaire, à tel point que certains le surnommeront Jules César II.
Un homme très autoritaire, très très porté à la domination. D'ailleurs, son surnom dans l'imagerie pontificale, c'est celui de pape terrible, pape terrible. C'est un fait. La carrière du pape Jules II n'a pas été marquée par de grandes innovations théologiques, mais a été surtout marquée par une très grande activité politique et même militaire. On le présente souvent comme en armure, le glaive dressé.
Michel-Ange résume la situation romaine dans un sonnet que nous traduit Franck Labrasca.
Ici, c'est-à-dire à Rome, avec les calices, on fait des casques et des épées. Et la croix et les épines, donc la croix et les épines du Christ, ne sont que des lances et des boucliers. Et même le Christ commence à perdre patience.
Dans le domaine politique, l'action de Jules II a été immense en s'étant troublé du début du XVIe siècle.
Il a, en quelque sorte, pratiqué une politique d'alliance tous azimuts. Il s'est d'abord allié avec la France contre Venise. Avec Louis XII contre Venise, le grand obstacle, si vous voulez, aux visées hégémoniques de la papauté en direction justement de la Romagne, c'est-à-dire du nord de l'Adriatique, c'était disons, les ambitions de la République de Venise, dans ce qu'on appelait la Ligue de Cambrai, pour battre les Vénitiens. Et effectivement, cela s'est produit. Les Vénitiens ont subi une très très grave défaite à Agnadel, en 1509. Cela dit, une fois que Venise a été, non pas abattue, parce qu'elle n'a pas été complètement abattue, mais au fond, où ses ambitions étaient très sévèrement limitées, Jules II s'est aperçu qu'il y avait aussi un certain danger à renforcer la présence française en Italie. Et donc, il a pratiqué un retournement d'alliance, et à ce moment-là, il a mis sur pied une autre ligue, la Ligue Sainte, et qui est resté célèbre parce que justement Jules II avait lancé lui-même ce mot d'ordre, cet appel « Fuori barbari », dehors les barbares, sur une base anti-française.
Et c'est finalement Jules II qui conduisit la France à renoncer à ses ambitions italiennes après une bataille décisive.
Ça va être la bataille de Ravenne en 1512, que effectivement la Ligue Sainte du Pape a perdu, mais les Français y ont subi de telles pertes que ça a conditionner l'avenir de leurs ambitions italiennes. Et donc, c'en est fini, si vous voulez, du grand rêve de Charles VIII, presque de grandeur, de se servir au fond de l'Italie comme d'une plateforme vers l'Orient, comme une plateforme vers la croisade, pour que le roi de France fasse figure en quelque sorte d'empereur de la chrétienté. Donc on peut dire que Jules II a été, par sa politique justement de retournement, par son extrême ambition, par son extrême bellicisme, par son extrême intransigeance, a été le personnage qui a symbolisé justement ce tournant des guerres d'Italie.
Mais les ambitions de Jules II ne sont pas que militaires.
Jules II, toujours dans le cadre de ce rêve de grandeur, de ce rêve d'affirmation de la papauté, évidemment a eu des ambitions artistiques extrêmement affirmées. Et on lui doit des projets d'urbanisme, des projets de construction, notamment à Saint-Pierre de Rome, justement, extrêmement fastueux. Il a engagé les plus grands architectes et surtout, évidemment, Michel-Ange. Alors, c'est le fameux projet du tombeau que Jules II voulait se faire construire. Ce tombeau n'a jamais été achevé et il en reste, évidemment, cette magnifique statue du Moïse est non pas à Saint-Pierre, mais dans l'église de Saint-Pierre aux Liens.
Symbole suprême de la vision qu'avait Jules II de la grandeur des arts, mais surtout de la grandeur des hommes, la chapelle Sixtine, dont il confie le plafond à Michel-Ange dans les années 1508.
L'esthétique de la chapelle Sixtine correspond bien, au fond, à l'esprit qui était celui du pontificat de Jules II, c'est-à-dire une sorte d'exaltation de ce qu'on appelle surhumanité, hein, des personnages tellement imposants, tellement écrasants, tellement pleins de leur force et de leur puissance. L'époque de Jules II impose cette vision titanesque, cette vision surhumaine, hein, parvenue à la plus haute charge, au fond, qu'on puisse imaginer dans la chrétienté, loin d'en tirer des leçons d'humilité, des leçons de piété, des leçons, comment dirais-je, de modestie, en tire au contraire un sens titanesque de son propre pouvoir, et non seulement au niveau des idées, mais il le traduit dans son action, il le traduit dans son comportement, en quelque sorte.
C'était Franck Labrasca, professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui nous parlait du pape Jules II.